Radio Kapi.
Le journal avec Grâce Amzati Masanzi.
À la une de l'actualité ce soir, reprise timide du trafic ce dimanche sur l'axe routier Pitso-Pimbo à Ituri après perturbation de la journée d'hier. En tout cas, les miliciens de la CODECO ont placé des barricades pour se venger contre la mort de trois de leurs jeunes. Des précisions dans quelques instants. Le gouvernement congolais dit oui pour le contrôle du mouvement migratoire pour prévenir la criminalité et toute autre activité subversive. C'est le président de la République qui l'a évoqué lors du dernier conseil des ministres ici à Kinshasa. L'invité de la rédaction ce soir est Agnès Debiage, formatrice au sein de l'Institut français de Bukavu. Elle nous parle de la formation en faveur des acteurs culturels organisée par son institution afin de favoriser l'accès aux livres et à la lecture au Sud Kivu. Madame, messieurs, bonsoir. Ce journal part de l'Ituri où le trafic a repris timidement ce dimanche sur la route nationale numéro 27, axe Pitso-Pimbo. C'est après avoir été perturbé toute la journée de samedi à la suite des barricades érigées par une centaine d'éléments de la milice CODECO. Selon des sources sécuritaires, ces assaillants se vengeaient contre la tuerie le vendredi de trois d'entre leurs jeunes par des miliciens zaïres à Gbalana, village de la chefferie de Baïma Nord, dans les territoires des Djougou. N'est-ce pas, Jacques-Yves Molima?
Des centaines d'assaillants armés en provenance de leur bastion d'Embaou sont descendus sur la route nationale numéro 27, précisément au village de Picho Matete, en allant vers Pimbo. Ces hommes armés ont barricadé la route empêchant le passage à tout véhicule de transport en commun. Selon des sources sécuritaires, très effrayés, ces miliciens tiraient des coups de feu pour créer la psychose avant de prendre en otage 8 personnes qui étaient sur 3 motos. Ces dernières provenaient de Mungwalu en transportant un cadavre qu'elles amenaient à Mahagi, indique la même source. Ils ont été ramenés dans la forêt des Choro, abandonnant le cadavre dans la brousse. Ce matin de dimanche, des transporteurs affirmaient que les assaillants de la CODECO ont libéré la route grâce à l'intervention de certains chefs coutumiers dans la région.
Merci à vous, Jacques-Yves Molima Aouta, pour toutes ces précisions. Notons que les 8 personnes prises en otage ont été libérées quelques temps après grâce à l'intervention du chef de secteur de Walendu Dati. Pendant ce temps, au Nord Kivu, dans les territoires des Lubero, au moins 6 villages du secteur de Bapéré sont vidés de leurs habitants depuis mardi à cause de la présence des rebelles des ADF dans ces entités situées à une centaine de kilomètres de la ville de Butembo. Le chef de secteur du Bapéré, Makère Sivikunuloa, qui alerte, ne donne cependant pas le nombre de personnes déplacées à la suite des exactions commises par ces rebelles contre les civils. Il demande à l'armée de lancer des opérations militaires de grande envergure contre ces ADF qui, selon lui, ont investi plusieurs villages. Makère Sivikunuloa le dit au téléphone de Guylaine Kasasia.
Je confirme le déplacement massif de la population dans la partie nord-ouest du secteur de Bapéré, notamment tous les villages qui font frontière avec le groupement Bakaeku, chefferie Babila Babombi, territoire de Mambasa, province de l'Ituri. Ils se sont vidés donc dans tous les villages de Makumo, Hoho, Ihe, Dubaï, Marocain et Biloulou. C'est suite à la présence d'ADEF dans cette partie là, qui sont en train de commettre vraiment des massacres. C'est donc un nouveau groupe d'ADF dont on ne connaît pas la trajectoire. Nous alertons les autorités militaires pour que les dispositions soient très vite prises afin d'empêcher la progression de ces bandits ADF. Nous sommes submergés par un nombre de déplacés, les villages vidés, les champs vidés, alors que nous sommes à la saison de récolte du riz. Il faut qu'il y ait vraiment une solution très urgente pour traquer et anéantir ces nouveaux groupes d'ADF.
Contacté par Radio Kapi, le porte-parole des FARDC dans les Grands Nord Kivu, le colonel Makazukai, dit ne rien savoir de cette situation. Toutefois, il promet de se prononcer après vérification auprès des unités militaires dans la zone. Entre-temps, le député national Willy Mishiki plaide pour l'incorporation effective de Wazalendo dans les FARDC, la police nationale et les services de renseignement pour qu'ils soient soumis à un commandement unique et harmonisé. Dans un point de presse hier ici à Kinshasa, l'élu de Walikale, Honor Kivu, des retours des vacances parlementaires, estime que la soumission des Wazalendo à un commandement unique et harmonisé pourrait diminuer les abus de quelques-uns et contribuer au retour de la quiétude dans certaines agglomérations de l'Est. Par ailleurs, les députés Willy Michiki recommandent au gouvernement de leur assurer le plus vite possible une formation accélérée en droit humanitaire international et en droit de l'homme. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous pensons que incorporer les ex-Wazalendo dans les FRDC et la PNC, avoir un commandement unique, on ne va plus parler de VDP, on ne va plus parler de RAD, on va parler des FRDC. Et cela va nous éviter les dérapages que nous connaissons aujourd'hui, puisque les Wazalendo ne vont pas se soumettre aux instructions des FRDC ou de la PNC, disant qu'ils ont des commandements autonomes, et alors que lorsqu'ils seront dans l'armée, dans la police nationale, dans les services de renseignement, nous pouvons aujourd'hui avoir un commandement unique et éviter non seulement l'insécurité, mais les abus que nous constatons par-ci par-là qui nous fragilisent sur le plan militaire. L'avantage que les Wazalendo ont, ils sont déjà formés militairement, ils se battent pour conserver la terre de leurs ancêtres et ils ont résisté. Donc, tout ce qu'il faut seulement, c'est leur donner peut-être des cours accélérés, notamment des droits humanitaires internationaux et des droits de l'homme qui doivent être respectés. Puisque aujourd'hui, par exemple, les Wazalendo ne sont pas payés. Ils se font payer eux-mêmes à travers les jetons qu'ils récoltent. J'ai vu à Wazalendo par exemple, comme à Massissi, les gens payent 500 francs les jetons, d'autres 2000 francs les jetons.
Nous l'avons dit dans les titres, le gouvernement de la RDC est pour le contrôle du mouvement migratoire. Cette question était parmi les points évoqués par le président de la République dans sa communication lors de la réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier. Pour Félix Tshisekedi, l'objectif est de prévenir la criminalité et toute autre activité subversive. D'autres détails avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Président de la République a de manière spécifique parlé du rôle des bourgmestres, des administrateurs de territoire, des chefs des secteurs et chefferies, des chefs des quartiers, des chefs des groupements et des chefs des villages. Cette tâche s'étend même aux chefs de rue pour mieux situer les résidents. Dans les cas de la territoriale et de l'état civil, ces différents animateurs sont appelés à jouer un rôle déterminant dans l'encadrement de la population en coopérant avec les services appropriés du ministère de l'Intérieur et de la Justice pour identifier correctement leurs administrés en vue de contribuer à aider les services de la police, des migrations, des défenses et des sécurités à veiller au mouvement migratoire et au changement des résidences. C'est là pour contribuer notamment à la prévention contre la criminalité ou toute autre forme de fléau qui s'installe illégalement sur notre territoire pour des activités de déstabilisation de l'ordre établi. Ainsi que cela se passe dans tout état moderne. Tout changement des résidences ou acte lié à l'état civil doit être signalé et enregistré auprès des autorités locales compétentes. Ces mesures ont un impact certain sur la tranquillité sociale et même sur la santé publique.
Notez que le président de la République a engagé les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, le ministre délégué près du ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, en collaboration avec les gouverneurs des provinces, à instruire tous les services étatiques et leurs animateurs des entités territoriales décentralisées et celles déconcentrées sur leurs compétences, à veiller scrupuleusement à l'application sans faille de ces mesures, conformément aux prescrits légaux et réglementaires. Le ministre d'État et ministre des Budgets sera aussi associé pour traiter les questions liées à leur budget. Un rapport de la mise en application est attendu en déjà 3 mois. Direction le Kasaï oriental. Plus de 800 propriétaires de parcelles comprises entre les avenues Dodoma et Zaïre au quartier de la Plaine dans la commune de Bipimba sont sommés de déguerpir dans un mois pour faciliter la poursuite des travaux de construction de l'aéroport international de Mbujimayi. Cette décision est contenue dans l'arrêté provincial rendu public le jeudi. Un reportage d'Esther Ndalafina rendu par Étienne Lissumbo.
D'après l'arrêté provincial, les maisons concernées sont celles construites sur l'emprise de l'aéroport en expropriation pour cause d'utilité publique. À travers l'arrêté publié jeudi dernier, le gouvernement provincial remet officiellement à la régie des voies aériennes cet espace pour permettre à l'entreprise All One Builder Construction, qui a gagné le marché, de poursuivre les travaux de construction et de modernisation de l'aéroport de Bipimba. D'ailleurs, cette entreprise a menacé de plier bagages étant donné que les travaux débutés depuis 2022 ont subi un retard considérable dans leur exécution suite à la lenteur préjudiciable de la libération des parcelles concernées par l'expropriation. Avant le déguerpissement, le gouvernement provincial ADR attribuait aux propriétaires des parcelles une concession à Benantumba dans le territoire de Lupatapata. Il demande à cet effet aux services techniques d'urbaniser ces lieux, de prévoir les raccordements en eau, en énergie électrique et d'y implanter un poste de la police pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Signalons qu'une commission est mise en place pour statuer sur certaines réclamations.
Nous sommes au Congo central. Dans la ville de Boma, la société civile attire l'attention de la population et des décideurs quant à l'insalubrité publique qui a élu domicile dans cette ville. Selon Titi Pungu, président de cette structure citoyenne, à quelques jours des retours des pluies, il s'observe une augmentation inquiétante des déchets jetés sur les lits de la rivière Kalamu et dans plusieurs autres endroits de la ville de Boma. Selon lui, cette insalubrité pollue l'environnement, dégrade l'image de la ville et constitue un danger pour la santé publique. Il appelle les autorités à renforcer la sensibilisation et la réglementation sur les déchets et la gestion des eaux usées, mais aussi à mener des actions de répression face à cette pratique. On l'écoute au micro de Nana Purichwambo.
C'est avec désarroi et stupéfaction que nous observons les comportements inciviques de notre population qui se vertue dans les pratiques qui polluent notre environnement. C'est depuis plusieurs mois que nous constatons une augmentation inquiétante des déchets jetés sur le lit de la rivière Kalamu en sous les ponts vides, mais aussi des déchets abandonnés dans la rue et autres espaces publics, et ce malgré l'existence des panneaux interdisant cette mauvaise pratique à côté du pont. Cette situation dégrade non seulement l'image de notre ville, mais représente également un danger pour la santé publique et l'environnement. Nous devons prendre conscience que la propriété de notre vie est un devoir partagé. Nous demandons à l'autorité urbaine de renforcer la sensibilisation et la réglementation sur les déchets et la gestion des eaux usées, mais aussi de mener des actions de répression à travers ces services techniques. Nous citons les services de l'hygiène et de l'environnement, et de sanctionner le comportement irrespectueux des règles des propriétés. À la population bomatracienne de maintenir l'environnement sain.
Revenons un instant à Ituri pour vous dire que la ville de Bunia connaît une expansion rapide, mais l'accès à l'eau potable reste un défi majeur dans plusieurs quartiers. Faute d'un réseau suffisant, de nombreux habitants s'y tournent vers les forages, une alternative coûteuse pour beaucoup. Martial Papimukeba nous amène au cœur de cette lutte quotidienne pour chaque goutte d'eau. Voici son reportage.
Nous sommes dans la commune d'Mbunia, où l'accès à l'eau potable est un véritable parcours du combattant pour de nombreux ménages. Beaucoup sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres à la recherche de cette denrée rare, comme en témoigne cette femme.
Nous, ici, on n'a pas de l'eau. Pour trouver de l'eau, c'est difficile. On se déplace même 3 kilomètres pour trouver de l'eau. De l'eau à boire, on peut acheter ça 200 fois. L'autre, ça, c'est 4 par bidon. C'est très difficile.
Dans plusieurs quartiers, certains ménages qui ont les moyens ont choisi de construire des forages à des coûts variant entre 1 500 et 5 000 dollars américains. Ces forages deviennent la principale source d'approvisionnement en eau, comme le témoigne cet habitant de la commune de Nyakasanza.
Comme réseau de forage ici, on avait juste des forêts dans le réseau de sauver les voisins, mais aussi sauver la famille. Vraiment, nous avons l'accès à l'eau potable parce que nous utilisons comme nous voulons. Et maintenant, on est pestable.
En attendant des solutions durables, les habitants de Bunia s'adaptent à cette solution, espérant des jours meilleurs. Bunia, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Merci d'écouter Radio Okapi, la fréquence de la paix, au quartier Loama à Kindu, dans la province du Maniema. Ici, l'imam, chef de la communauté islamique du Congo, Komiko, exhorte tous les musulmans à s'intéresser aux activités de développement pour l'émergence de cette province, confrontée à plusieurs défis. Chez Idi Saleh Manoussoura l'a dit hier à l'occasion du lancement des travaux de construction de la mosquée Mahadi au quartier Loama. On écoute à ce sujet le secrétaire particulier de l'imam, Amissi Idrissa Bienvenu, qui s'est confié à Florence Kizalonga.
Nous sommes dans le quartier Loama, bloc Kabolongo, commune Kasuku, pour lancement des travaux de construction de la mosquée moderne dénommée mosquée Mahdi. C'est la troisième réalisation que compte l'imam chef d'entité islamique de la Komiko Maniema, Cheikh Idi Saleh Mansoura, sans compter les travaux de forage des puits d'eau et autres œuvres sociales. L'imam chef d'entité islamique de la Komiko Maniema invite tous les musulmans de la province du Maniema au calme et de se soucier aux actions de développement qui font l'honneur et la fierté de cette grande communauté qui est la communauté musulmane.
Actualité, International.
Dans le nord-est du Nigeria, quelques jours après les pluies torrentielles qui ont entraîné la rupture d'un barrage en amont de Maiduguri dans l'état de Borno, l'aide aux sinistrés s'organise. Mais les besoins sont immenses et la crainte désormais est de voir des épidémies se déclarer.
L'invité.
C'est Madame Agnès Debiage, formatrice au sein de l'Institut français de Bukavu. Elle accompagne les acteurs de la chaîne du livre en Afrique. Son institution a organisé une formation de 5 jours à l'attention des auteurs, éditeurs, bibliothécaires et libraires pour renforcer la chaîne du livre et favoriser l'accès au livre et à la lecture dans la province du Sud Kivu. Agnès Debiage s'entretient avec Rachel Kiesse Mbangu.
Agnès Debiage, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi cette formation sur la chaîne de livres et la gestion d'une librairie?
L'idée, c'est vraiment à la fois de leur faire prendre conscience de ce qu'est la chaîne du livre, de ce qu'est la librairie et comment peuvent-ils nouer des liens avec la librairie en comprenant mieux son écosystème, mais également de les mettre dans l'action pour générer des projets et des partenariats entre eux.
C'est quoi ce que vous visez en organisant une telle formation, en mettant ces éditeurs, ces libraires, ces auteurs dans cet environnement de la librairie?
Alors l'idée, c'était vraiment de faire découvrir à tout le monde ce qu'est une librairie vue de l'intérieur, de leur faire comprendre ce qu'est l'écosystème de la librairie, aussi bien ses relations avec ses clients, ses relations avec ses fournisseurs, son assortiment, ses stocks, sa relation client. Et là, ça a été extrêmement puissant puisque hier, on a fait une journée de pratique intégralement en librairie et ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de choses qu'ils n'imaginaient pas de la librairie. Pourquoi ? Parce que très souvent, dans les contextes africains dans lesquels moi je travaille, la librairie est assimilée à un vendeur de livres. Or, la librairie, c'est beaucoup, beaucoup plus, mais quand on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte.
Les nouvelles technologies, l'Internet, prennent plus d'espace dans nos quotidiens. Quelle place doit occuper la lecture?
Alors, ça, c'est une très grande question, parce que on est tous soumis à cette problématique, même quand on est lecteur. Aujourd'hui, on passe tellement de temps connecté que notre cerveau commence à fonctionner en mode zapping. Donc, les gens, et ça c'est scientifiquement prouvé, ont de plus en plus de mal à se concentrer. C'est pour ça notamment qu'il y a un enjeu énorme à sensibiliser les enfants à la lecture. Et comment est-ce que les parents peuvent sensibiliser les enfants à la lecture? C'est en partageant des moments de lecture avec eux. Et non pas juste en leur donnant un bouquin. C'est en les emmenant dans les bibliothèques, là où on va avoir des livres disponibles très souvent gratuitement. Il faut qu'il y ait du partage, il faut qu'il y ait de la médiation des parents pour que les enfants aient envie de lire. Mais aujourd'hui, le numérique est effectivement une grosse concurrence aux livres. Maintenant, il y a aussi de plus en plus de gens qui commencent à lire sur leur téléphone ou sur leur tablette. C'est une réalité. C'est aussi de la lecture, hein. Ce qui est important dans cet écosystème avec le numérique, c'est de l'intégrer, et je pense à la librairie du coup, qui doit intégrer le numérique dans son plan d'action, de manière à ne pas rester sur le côté de la route et à continuer à être vendeur de livres, mais en numérique.
Les parents doivent initier les enfants à la lecture, les accompagner, mais n'est-ce pas déjà un problème pour les adultes qui ne lisent pas? Une personne qui a des enfants, mais qui ne lit pas, comment initier cela à ses enfants?
Effectivement, si la personne ne lit pas, déjà elle aura moins de sensibilité à amener son enfant vers la lecture. Mais par contre, le parent aura sa fibre parentale, avec l'envie de donner le maximum à son enfant pour sa réussite, son épanouissement, son éducation. On peut se dire que si le parent a envie de donner toutes les chances, il peut faire, entre guillemets, l'effort de partager un moment de lecture de temps en temps avec son enfant d'un livre qu'il est allé chercher à la bibliothèque, à la librairie ou qu'il avait.
Pendant votre formation avec les libraires, les auteurs, les éditeurs, vous avez aussi évoqué le fait qu'ils doivent être ensemble, apprendre à travailler ensemble. Pourquoi cet accent en particulier?
Pour moi, c'est fondamental. C'est une des choses que j'essaye d'initier dans toutes mes formations. C'est-à-dire que il y a certes la professionnalisation, mais on travaille en lien les uns avec les autres. C'est bien le principe de la chaîne du livre. Or, pour qu'il y ait ces liens, il faut qu'il y ait des gens qu'on se connaisse, qui est une forme de confiance, même si elle prend du temps à s'instaurer, qui est une forme de complicité, et que du coup on soit beaucoup plus à l'aise pour travailler ensemble. Là on a un groupe de 20 personnes, et bien si moi j'arrive à mon petit niveau à faire en sorte que quand ils quittent cette salle au bout du cinquième jour, ils n'hésitent plus à se téléphoner les uns les autres pour se parler de projets professionnels, ben, ça sera déjà une réussite. Moi, je fais en sorte de les inciter à initier des projets pendant le temps de la formation, de manière à ce que le premier pas soit déjà enclenché, en fait.
Je vous remercie.
Merci beaucoup à vous.
Agnès Debiage, formatrice au sein de l'Institut français de Bukavu, était interrogée par Rachel Kiesse-Mbango. 19h20 à Pangi, dans la province du Maniema, ainsi prend fin ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et mis en onde par Pierre Diassinois. La présentation de Grâce Amzati Masanzi. Merci pour votre confiance à la fréquence de la paix.